Vous êtes bien sur RFI, il est 5h30 à Niamey, 4h30 en temps universel et 6h30 à Paris. L'heure de revenir sur l'actualité africaine avec vous, Simon Bourtembourg, bonjour.
Ah, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, la victoire évidemment du PSG en finale de la Ligue des Champions. Un succès historique largement fêté sur le continent africain.
De Dakar à Moroni, en passant par Kinshasa, les supporters du Paris Saint-Germain célèbrent le premier titre du club français en Ligue des Champions. Ils n'en demandaient pas tant, 5-0 score final face à l'Inter Milan. Un reportage dans la capitale congolaise. Dès le début de cette édition, un sacre européen dont on parle aussi largement dans le journal des sports dans une dizaine de minutes. En Centrafrique, le meeting était prévu de longue date. Le bloc républicain pour la défense de la Constitution n'a finalement pas pu se réunir hier sur le terrain de Lukatex à Bangui. Les militants du groupe d'opposants disent d'avoir été agressés. Dans cette édition, nous revenons également sur les réformes fiscales qui permettent à l'économie du Nigeria d'aller mieux. Et puis au Burkina Faso, une vingtaine de femmes ont bénéficié d'une campagne de chirurgie gratuite du cancer du sein. Le score est donc historique pour une finale de Ligue des Champions. 5-0, les Parisiens n'ont laissé aucune chance à l'Inter Milan hier soir à Munich. Le PSG remporte sa première coupe aux grandes oreilles. Un aboutissement pour les actionnaires qatariens arrivés à Paris il y a 14 ans. Il faut dire que depuis, les supporters parisiens ont vécu moult désillusions sans jamais cesser de rêver plus grand. Paris était donc en liesse hier soir au coup de sifflet final. Des scènes de joie observées dans toutes les grandes villes du continent où les fans du PSG se sont retrouvés. Illustration à Kinshasa avec Olga Massangou.
Inattendu est le score de 5-0 en faveur de Paris dans cette finale.
Je n'espérais pas la victoire du Paris Saint-Germain. Déjà 2-0 à la première mi-temps. J'étais un peu surpris de voir cette équipe menée face à l'Inter de Milan.
Pour beaucoup de supporters, cette finale parisienne est une consécration au vu de leur saison.
C'était un souhait que Paris gagne. Pour moi, qui ai commencé à suivre Paris Saint-Germain depuis l'époque de Patrice Loco, de Michael Madar, de Eric Rabessandra et Atana, ça rentre dans l'histoire. C'est vraiment un match plus qu'historique, mais en face, c'est plutôt un carnage.
C'est un esprit collectif du PSG. En tout cas, bravo.
Des supporters du PSG venus de quelques quartiers de Kinshasa étaient réunis sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala. Et du premier au cinquième but parisien, ils étaient aux anges. À l'image de sa saison en Ligue 1, le PSG a marché sur cette finale pour remporter sa première Ligue des Champions face à une équipe d'Inter Milan qui n'a pas existé. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Et la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions, on y revient évidemment largement dans le journal des sports, c'est maintenant dans moins de 10 minutes. Je vous le disais en titre, l'opposition centrafricaine empêchée de se rassembler hier à Bangui. Le meeting du bloc républicain pour la défense de la Constitution devait se tenir sur le terrain de Lukatex, dans le 8e arrondissement de la capitale. À l'occasion pour les opposants, réunis depuis un mois au sein du BRDC, de dénoncer les difficiles conditions de vie des Centrafricains et la mauvaise gouvernance des autorités. Il n'en a finalement rien été. Les militants disent avoir été agressés, et ce par un groupe de jeunes qui souhaitaient organiser un match de football sur le terrain. Rolf Steve Domialeux, le BRDC y voit la main du pouvoir en place.
À 13h, le périmètre est bloqué par les organisateurs du match. Empêchés d'atteindre le terrain, des manifestants rebroussent chemin. Dans les alentours, c'est la confusion, altercation, insultes et bagarres. Maître Crépé Boligumba, coordonnateur du BRDC, dénonce une violence organisée.
Les bus qui acheminaient nos militants qui habitent la périphérie de Bangui ont été lapidés. Nos militants sur le terrain, autour du stade, depuis 10 heures, agressés physiquement. Nous déplorons l'hospitalisation de deux de nos militants au moment où nous vous parlons. C'est bien la preuve que c'est la démocratie aujourd'hui qui est bafouée.
Pour le BRDC, c'est le mouvement Cœur Uni le parti au pouvoir qui a organisé cette violence. Accusation démentie par Christian, l'un des organisateurs du match.
Ce match n'a pas été organisé par les organisations qui soutiennent le président Touadéra. Nous sommes la jeunesse. On a organisé ce match depuis à l'occasion de la fête de mai. Nous devons jouer la finale la semaine passée, mais à cause de l'intempérie, on n'a pas pu jouer la finale. C'est pour cela qu'on a organisé cette finale-là aujourd'hui.
Selon Maître Crépé Boligumba, le BRDC avait reçu l'autorisation de tenir son meeting. Il dénonce la partialité des forces de l'ordre.
Il y avait les forces de l'ordre sur le terrain qui ont pris manifestement fait et cause pour ceux qui nous agressaient. La MINUSCA avait promis assurer la protection de nos militants. Il n'en a rien été. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous sommes plus que jamais déterminés à nous battre pour restaurer la démocratie dans notre pays.
Le BRDC promet d'autres actions dans les prochains jours. Rolf Esteve Domialeux, Bongi, RFI.
À 92 ans, on ne sait pas s'il compte briguer un nouveau mandat à la présidence camerounaise. Paul Biya peut en tout cas compter sur le soutien des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir dans la région du Sud-Ouest. À moins de 6 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre, les leaders locaux du RDPC étaient réunis hier à Bouéa à l'occasion de lancer une levée de fonds pour la campagne du président camerounais. Le reportage de Richard Onanena.
Fanfare, groupe de danse et militants exultent devant l'auditorium de l'école d'administration locale de Bouya, au pied du mont Cameroun. La salle, parée aux couleurs du RDPC, le parti au pouvoir, regorge de discussions sur la candidature de Paul Biya.
Nous affirmons notre soutien à la candidature du président Paul Biya et l'assurons de notre détermination à le soutenir, lui et le RDPC, au cours des prochaines élections.
Les élites RDPC du Sud-Ouest lancent ainsi leur campagne pour la réélection de Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans. Le chef de l'État, lui, ne s'est toujours pas prononcé à ce sujet. Cette campagne de soutien, elle a un coût, rappelle Peter Mafani Moussongue, ancien Premier ministre et président du RDPC dans la région.
Les activités électorales coûtent cher. Je vous invite à contribuer généreusement à leur financement le moment venu. Les fonds épargnés sont des fonds du parti et ceux qui les gèrent doivent rendre compte à la hiérarchie du parti.
Cet engouement à soutenir le régime de Yaoundé surprend la société civile locale. Un activiste confie que les autorités devraient avoir comme priorité le bien-être des populations et la résolution de la crise anglophone qui dure depuis 2017. Richard Onanena, de retour de Bouya. RFI.
Et cette fois, à Paris, des milliers de Camerounais se sont rassemblés, mais en soutien à la candidature de l'opposant Maurice Kamto. Devant ses partisans, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est présenté en messager de l'unité du pays. La frontière entre le Niger et le Bénin restera fermée. Le général Tiani était hier soir interviewé à la télévision nationale. Le chef de la junte nigérienne continue d'accuser son voisin d'accueillir des bases militaires françaises où s'entraînent, selon lui, des djihadistes, ce que Cotonou et Paris ont toujours nié. Des forces néocolonialistes comme la France, l'Union européenne et les États-Unis veulent déstabiliser le Niger, a-t-il dénoncé. Le général Tiani, qui a en revanche esquivé les questions sur les attaques djihadistes, alors que plus de 100 membres des forces de sécurité ont été tués ces derniers jours. Enfin, sur la crise entre la compagnie pétrolière chinoise et Niamey, le général Tiani a estimé que la Chine et ses sociétés jouent un jeu trop trouble au Niger. Au Nigeria, les réformes fiscales commencent à porter leurs fruits. L'agence de notation Moody's relève d'un cran la note du pays. Techniquement, elle passe de CAA1, comprenez crédit très risqué, à BA3, crédit risqué. Les perspectives se stabilisent donc et la situation financière du Nigeria est portée par une économie plus dynamique. Claire Fage.
Les récentes réformes monétaires ont permis d'améliorer la balance des paiements du Nigeria et de regonfler ses réserves de change, applaudit Moody's. L'inflation demeure élevée, mais elle montre des signes d'accalmie, poursuit l'agence de notation américaine, confiante en la poursuite des progrès sur le front des finances extérieures et du budget. Les réformes de dévaluation et la réduction des subventions sur l'énergie commencent à porter leurs fruits, s'est félicité le président Bola Tinubu cette semaine, après 2 ans de mandat au cours desquels le Nigeria a connu une de ses pires crises du coût de la vie. Il y a 3 semaines, la Banque mondiale avait de son côté salué la plus forte accélération de la croissance du Nigeria en 10 ans, 4,5% pour 2024. Elle mise sur 3,6% cette année et sur plus de stabilité monétaire. monétaire. Avec l'amélioration de la note du pays, c'est désormais le coût de la dette nigériane qui devrait s'alléger grâce à la baisse des taux d'intérêt.
Au Nigeria, toujours ce tragique accident de car. Hier soir, 21 personnes sont mortes donc dans un accident de la route. Aucun autre véhicule n'est en cause. La sécurité routière avance de son côté que le drame pourrait être survenu en raison de la fatigue et de la vitesse excessive du véhicule. Dans un long trajet de nuit, les victimes revenaient du 22e Festival National des Sports. Au Burkina Faso, quand la médecine s'attache à soigner les plus vulnérables, une vingtaine de femmes ont bénéficié d'une campagne de chirurgie gratuite du cancer du sein. L'opération, la troisième du genre, se tenait cette semaine au centre hospitalier de Ouagadougou. Et cette année, un programme de chirurgie de reconstruction des seins pour les femmes patientes déjà guéries du cancer a été inauguré. Pour la deuxième fois du pays, l'opération a été réalisée avec succès. Wely Diallo.
SD est la première patiente du CHU Yaldago Ouédraogo à bénéficier de cette reconstruction mammaire. 40 ans, mère de 3 enfants, son périple débute en 2020 lorsqu'elle découvre une boule dans son sein droit. Après des examens approfondis, on lui diagnostique un cancer du sein. Elle subit des séances de chimiothérapie puis de radiothérapie avant une ablation du sein en 2021. Ce jeudi, elle a bénéficié d'une chirurgie réparatrice du sein droit. Tout s'est bien déroulé et la patiente va parfaitement bien, a déclaré le chirurgien Naizongo. C'est la deuxième fois qu'il réalise un tel procédé médical. Au mois d'octobre, son équipe a mené la première chirurgie reconstructive des seins du Burkina sur une autre femme à Léo, dans le sud du pays. L'opération consiste à prélever une partie de la peau du ventre de la patiente avec de la graisse et des vaisseaux pour ensuite la greffer au niveau du sein. SD devra subir une deuxième opération, cette fois pour restaurer son mamelon.
La précision signée Wely Diallo.
Afrique Matin sur RFI.
RFI à 4h41 en temps universel, à la suite du programme avec notre reportage. À produire du charbon plus écolo à partir de déchets ramassés dans les rues, c'est le pari d'une association centrafricaine. Nous serons à Bangui dans quelques minutes. Hommage au Kenyan Gogi Wa Thiong'o dans notre chronique littérature du jour. Le romancier et homme de théâtre kenyan est décédé mercredi dernier. Dans 100% création, nous verrons comment des déchets de carbone sont transformés en bijoux et en œuvres d'art. Mais avant ça, les sports. Et le journal des sports ce matin, c'est avec vous, Saliou Diouf. Bonjour Saliou.
Bonjour Simon.
Du football évidemment à la une avec la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Elle s'est jouée hier soir et donc direction la capitale française pour la coupe aux grandes oreilles.
31 mai 2025, une date gravée pour l'éternité. Le Paris Saint-Germain a donc remporté la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire en battant l'Inter Milan au terme d'une finale spectaculaire et totalement déséquilibrée. 5-0. Partout sur la planète, les amateurs de foot ont vibré devant ce match, notamment en Afrique, plus particulièrement à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Les supporters du PSG ont célébré cette victoire toute la nuit après des années d'attente. Reportage de Rolf Steve Domialeu.
Des milliers de personnes ont envahi dès le coup de sifflet final les différentes artères de la capitale. Ivre de bonheur et soulagé après des années d'attente, Stéphane, un supporter de Paris Saint-Germain, est aux anges.
Beaucoup de joie, je suis submergé par la joie. J'ai les larmes aux yeux même. On repose aux soirées où on a perdu de grands matchs. Et là, je peux dire que c'est une revanche du cœur. On y a cru jusqu'au bout et c'est indescriptible. C'est un accomplissement ultime.
En voyant Marquinhos, le capitaine parisien, soulever la coupe, Eunice, une Parisienne, ne peut retenir ses larmes.
Le score présentement, c'est 5-0. C'est la fin du match. Je suis non seulement contente, mais surprise. Moi, je sais depuis dans ma tête que mentalement, le Paris a déjà gagné ce match. Parce que la victoire pour eux, pour les Parisiens, c'est une obligation, pas une option.
Malgré cette lourde défaite 5-0, les Milanais n'ont pas démérité selon Cresson Moussoua.
Vraiment, ils ont fait un parcours exceptionnel, en éliminant notamment le Bayern en quart de finale et le grand Barça qui était incontestablement le favori de cette campagne de Ligue des Champions. Mais malheureusement, arrivé en finale, je pense que ça a péché un peu. C'est à l'image de leur saison.
Cette victoire marquera à jamais les supporters parisiens de Bangui. Rolf Steve Domialeu, Bangui, RFI.
Et l'effervescence était la même du côté de Dakar, Cotonou ou encore Kinshasa dans les fan zones organisées par les clubs de supporters locaux.
Et hier soir sur leur terrain, donc lors de cette finale, un des joueurs majeurs de cette saison côté PSG s'est encore illustré.
Il porte le numéro 2, il est marocain, il s'appelle Achraf Hakimi et il a été le premier buteur de la rencontre hier contre son ancien club. Le Lion de l'Atlas a joué pratiquement tous les matchs cette saison. En Ligue des Champions, c'est 17 matchs joués, 4 buts marqués et 5 passes décisives. Une saison qui pourrait lui permettre de glaner le Ballon d'Or africain à la fin de l'année civile 2025, sachant qu'il vient déjà de remporter une récompense individuelle, le prix RFI Marc Vivien Fouet.
Et pour Hakimi et ses coéquipiers, quel est maintenant le programme de la journée?
Les Parisiens sont toujours à Munich à l'heure actuelle. Ils vont prendre la direction de Paris en début d'après-midi en avion. Atterrissage à Roissy pour ensuite se diriger en bus vers l'avenue des Champs-Élysées pour un défilé en bus impérial. Et la Ligue des Champions sera présentée dans la foulée au Parc des Princes devant un stade plein craquis.
Un salut du football toujours, mais cette fois sur le continent africain avec encore une finale de Ligue des Champions.
Une finale qui cette fois-ci se joue en deux manches. Il y a eu un partout au match aller en Afrique du Sud entre les Mamelodi Sundowns et le FC Pyramide. C'est le club égyptien qui reçoit le match au match retour au Caire. L'attaquant congolais Fiston Mayele va tenter de l'aider à remporter sa première C1. L'international des Léopards de RDC revient d'une petite blessure, mais il est prêt pour cette finale retour.
Avant le dernier match du championnat, avant qu'on part en Afrique du Sud, j'avais eu des problèmes de santé physique. J'avais eu de petites douleurs à la cuisse, dû aussi à beaucoup de matchs. J'ai enchaîné beaucoup de matchs depuis que je suis sur la pyramide. Championnat, coupe, Ligue des Champions, équipe nationale. Je ne me repose pas. À un moment donné, c'est un corps, tu vas claquer. On est à la fin de la saison, c'est un peu difficile. Et le dernier match qu'on a joué contre Ceramica, j'étais sur le banc. À cause aussi de ça, donc je voulais bien récupérer à la fin du match. Je suis rentré et puis je marquais un but qui va me donner la confiance pour ce dimanche. Et là, je suis en bonne santé pour faire un gros match ce dimanche. Parce que c'est la première fois que Pyramide joue la finale. On veut vraiment écrire notre histoire. Après, les objectifs personnels, moi aussi également, je pense que si je vais réussir à marquer dimanche, je serai meilleur buteur de la compétition.
Fiston Mayele au micro de Martin Dumas-Primbeau.
Salut Diouf pour le journal des sports, merci beaucoup. Du charbon made in Centrafrique, produit à partir de déchets. La fabrication est artisanale, mais cette nouvelle source d'énergie peu coûteuse et moins polluante, elle prend de plus en plus de place dans le pays. Pour produire des briquettes de charbon, l'association Dynamique Dominicaine pour l'environnement et le développement durable sillonne les rues de Bangui afin de collecter des déchets biodégradables. Le reportage de Rolf-Steph Domialu.
Dans ce quartier populaire, les passants les observent de manière étrange. Équipés de gants, de combinaisons, de bottes et de mototricycles, Edgar Fezel Dekpali et son équipe sillonnent les marchés pour collecter les déchets biodégradables.
Nous avons des cartons, nous avons des papiers, nous avons des sciures de bois, nous avons des déchets agricoles, les coques de maïs, les coques de riz, même les rejets de charbon. Hein. Quand on dispatche les sacs, quand c'est plein, on nous appelle, on vient chercher. C'est comme ça.
De retour de la collecte qui a duré toute la matinée, ils font le tri dans cet atelier à ciel ouvert. Gants rouges aux mains, casquette sur la tête, Yves, l'un des membres de l'équipe, présente les machines artisanales qu'il a lui-même fabriquées.
Le four, juste pour allumer, avec des combustibles recyclés, quoi. Il faut les broyer pour avoir les matières adéquates, quoi. En phase finale, la presse, juste pour presser les briquettes avec des formes initiales, quoi.
Après le triage, le processus de fabrication peut enfin débuter.
C'est un processus de 4 étapes. Nous avons la partie traitement. Nous avons une partie qui consiste à faire le malaxage. Et après, nous avons le pressage. Et après, nous avons la partie séchage aussi.
L'association DDEDD a fidélisé une centaine d'utilisateurs comme Johanna Yavala. Aujourd'hui, elle prépare la feuille de manioc dans une marmite posée sur un four à charbon. Cette mère de famille a changé ses habitudes de cuisson après avoir découvert le charbon écologique.
Je peux acheter, voire 40 ou 30 briques. Je peux prendre moi-même 3 briques. Je peux préparer avec, malaxer le couscous manioc avec, chauffer l'eau après avec. Dans un mois, parfois, je peux payer soit un carton, 15 000, parfois 17 000. Bon, ça dépend. C'est vraiment moins coûteux.
Une fabrication artisanale qui vise deux objectifs. Recycler les ordures ménagères et réduire la déforestation liée à l'utilisation des charbons de bois. Edgar Fusel Dekbali, coordonnateur du projet.
L'important, c'est d'abord de mettre barrière à ce qu'on appelle la criminalité environnementale, le changement climatique. On a préféré se mettre en pratique pour réaliser certaines choses un peu plus efficaces.
Créée il y a 7 ans, l'association DDEDD produit environ 4 tonnes de charbon écologique par mois. Un chiffre insignifiant pour avoir un impact significatif, mais ces jeunes sont déterminés à lutter efficacement contre la dégradation de l'environnement. Rolf Esteve Domerle, Bangui, RFI.
Comme tous les dimanches, voilà le moment de se plonger dans la littérature africaine avec Tirtankar Chanda, la littérature africaine en deuil cette semaine. Le Kenyan Gogi Wa Thiong'o est décédé mercredi dernier. Le romancier et homme de théâtre était notre invité en 2022. C'était à l'occasion de la publication en français du premier tome de ses mémoires.
Oh oui, je suis vraiment très heureux. Je me réjouis d'avoir cette possibilité de renouer avec mes lecteurs francophones grâce à la publication de Rêver en temps de guerre, le premier tome de mes mémoires. Ce processus a réellement commencé avec le volume d'essais « Décoloniser l'esprit » paru il y a quelques années.
And also through the previous text, through decolonizing the mind.
La voix que l'on vient d'écouter est celle de Gogi Wa Thiong'o, géant des lettres africaines contemporaines. C'est une voix rare sur les ondes françaises. Gogi est l'auteur d'une œuvre considérable, partagée entre romans, nouvelles, essais et pièces de théâtre. Né en 1938, il vit aux États-Unis depuis 4 décennies. Dans les années 1980, il dut fuir son pays où sa critique de la classe dirigeante kényane l'avait conduit en prison. Écrivain engagé, le Kenyan explore à travers son œuvre les méfaits de la politique néocoloniale Gogi Wa Thiong'o.
Committed in the sense that I believe empowerment.
Je suis engagé dans le sens où je milite pour l'émancipation économique des classes laborieuses. Issu moi-même d'un milieu paysan, j'ai travaillé jeune garçon dans les champs de pierrettes. Mes frères et mes sœurs, eux, travaillaient dans des plantations de thé appartenant à des colons européens. C'est donc tout naturellement que je me suis intéressé à la question de la responsabilisation économique et sociale des sections marginalisées de nos sociétés. Pour moi, c'est la seule voie vers un monde plus juste.
We can have a more just world.
Traduite en français de façon parcellaire, l'œuvre de Gogi Wa Thiong'o est encore trop peu connue du grand public francophone. L'apparition de la version française du premier tome de ses mémoires, Rêver en temps de guerre, promet d'être une nouvelle étape dans la découverte de l'univers dissident de cet auteur. L'ouvrage fait partie d'une série de 3 volumes autobiographiques que Gogi a consacrés aux 26 premières années de sa vie. L'opus s'ouvre sur la famille polygame de l'auteur. L'écrivain vieillissant n'a rien oublié de la concession familiale, répartie entre le père et ses 4 épouses et les 24 enfants du patriarche. Le titre « Rêver en temps de guerre » fait référence aux turbulences qui ont marqué les années d'enfance et d'adolescence de l'auteur dans le Kenya colonisé. Son pays est successivement secoué par la Seconde Guerre mondiale, puis la rébellion Mao Mao et la brutale répression de cette résistance anticoloniale par l'administration britannique. La guerre est omniprésente dans ses pages, elle est la toile de fond de l'enfance. Elle est familiale, sociale et surtout politique avec la domination coloniale qui spolia les Kenyans de leur terre, de leur dieu et de leur langue. Tout n'est pas perdu pour autant avec l'émergence de grandes figures nationalistes comme Jomo Kenyatta. Quelques-unes des pages les plus éloquentes du récit d'enfance de Gogi sont consacrées à la fascination qu'exerce ce leader historique sur son peuple.
You cannot understand Kenyatta.
Les gens aujourd'hui n'ont aucune idée de ce que représentait Jomo Kenyatta pour nous lorsque nous étions jeunes. Il faisait figure de géant. Il était pour notre génération plus grand que Mandela. Je suivais consciencieusement dans la presse les nouvelles de son procès. Paradoxalement, quelques années plus tard, c'est le même Kenyatta qui me fera enfermer dans un pénitencier sous haute sécurité. Mais pendant toute mon enfance et adolescence, il était mon héros.
Je suis fondamentalement un conteur, aime à dire Gogi Wa Thiong'o. C'est en effet en conteur qu'il convoque ses années d'enfance, restituant avec brio l'atmosphère des veillées traditionnelles et l'univers magique de l'école qui le sauvera de la tourmente de la guerre. Comment son rêve de prendre son destin en main, tout en gardant à l'esprit les fractures de l'ordre traditionnel qu'il a vu naître, a fait de Gogi cet immense écrivain qu'il est devenu. Ce sera le sujet la semaine prochaine de la seconde partie de cette chronique.
Tirtankar Chanda, à réécouter et à lire quand vous le voulez sur notre site internet www.rfi.fr. 100% création ou plutôt 100% recyclage ce matin, où comment des déchets de carbone sont transformés en bijoux et œuvres d'art. À la semaine prochaine, la France et le Costa Rica co-organisent la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, l'occasion de découvrir le parcours engagé de Jolaine Trécherel. Son histoire incarne l'innovation, l'éco-responsabilité et la transmission des valeurs liées à la mer.
À la base, je suis bureau d'études, donc technique, dessiner en 3D, faire des plans. J'ai toujours voulu lier l'entrepreneuriat au sport.
Jolaine Trécherel, fondateur de Carbone, une marque de bijoux avec du carbone recyclé.
Ce que j'ai appris récemment par ma mère qui fait des cours de breton, c'est que carbone avec un K et sans le E, ça veut dire carbone en breton.
Né à Quimper, Jolaine Trécherel a beaucoup voyagé en Europe en tant que sportif de haut niveau en voile. Il a suivi des études d'architecte naval spécialisé en matériaux composites. Il a exercé son métier en Nouvelle-Zélande, puis à son retour en France, il travaille 10 ans en bureau d'études avant de lancer en parallèle son projet Carbone. Une démarche innovante de récupération et de valorisation des chutes de carbone provenant des voiliers de course, notamment ceux ayant participé au Vendée Globe. Carbone voit le jour en 2014. Jolaine Trécherel, toujours architecte naval, fait évoluer progressivement ce projet jusqu'à la création de la marque en 2022, développée en Bretagne, près de l'océan.
On a construit vraiment notre écosystème local, principalement en Bretagne. On a aussi des partenaires d'écuries de course au large, donc françaises et internationales. La première chute, c'est une toute petite chute du bateau de Vincent Rioux, il y a très longtemps. Et petit à petit, on a développé des projets avec Sébastien Simon, avec Boris Herrmann, donc le skipper allemand, qui a été notre premier partenaire sur le long terme, parce qu'on travaille toujours avec eux, des chutes de fabrication du bateau, mais aussi des pièces qui ont pu casser en mer. Donc c'est à partir de là que la marque s'est fait connaître aussi dans le milieu de la course au large. On a travaillé avec des trimarans qui font le tour du monde, d'autres partenaires français en course au large. Et dernièrement, on travaille avec moins d'écuries, mais des écuries plus prestigieuses sur des projets beaucoup plus haut de gamme.
En s'inspirant de la nature océanique, l'approche de Jolaine Trécherel va au-delà du simple recyclage. Elle témoigne de l'importance de prolonger la vie des matériaux, de respecter la mer et de valoriser l'histoire humaine et sportive autour d'une performance.
En comparaison de deux bijoux identiques, la personne va choisir la pièce qui a une histoire, qui a couru à travers les océans. Et c'est vraiment cette histoire qui plaît, qui attire les sponsors, qui attire les marques, les écuries, parce qu'on sait sublimer et prolonger l'histoire. On sait combiner les deux.
Retrouvez l'univers de Jolaine Trécherel sur RFI.fr, chronique 100% création, et la version longue en podcast sur RFI Pure Radio.
100% création et Maria Afonso. De la musique, échec, Ibra Femme, pour refermer cette édition, le titre Xam Xam à retrouver en playlist RFI Musique.
Xam xamum, kuko am nyako dara. Xam xamum, kuko amul amo dara. Sama dom jangil, suma gibay sa kara. Sama dom jangil, suma
fait gagner gangile.
Douceur et volupté pour refermer cette édition. Cheikh Ibra Femme et son titre Xam Xam à retrouver en playlist RFI Musique. Restez bien à l'écoute de la radio du monde. Dans quelques secondes maintenant, le début d'RFI Matin.